D'abord, vous souhaitez la bienvenue. Personnellement, je suis heureux de pouvoir vous guider dans cet atelier sur les anges. Le titre de l'atelier est un brin provocateur. Je l'ai appelé communiquer avec les anges. C'est une expression qui est limite, hein. On sent bien dans ces logiques communication, on peut vite toucher justement un peu à l'ésotérique. Mais finalement, quand on pense bien à la finalité de la communication, c'est entrer en relation. Donc, en accueillant ce verbe communiquer comme signifiant entrer en relation, je pense qu'on peut accueillir cette réalité angélique sans partir dans des conceptions qui ne seraient pas ajustées. En préambule, là, je vous cite un passage des manuscrits du Lot. Alors, j'ai souvent parlé de manuscrits du Lot. Pour ceux qui ne connaissent pas encore bien le sanctuaire du Lot, il se trouve que tous les événements qui se sont vécus ici ont été rapportés par quatre auteurs et rassemblés dans un ouvrage qu'on appelle les manuscrits du Lot, 2000 pages. Et donc, je vais puiser à chaque fois dans les récits des manuscrits du Lot, les citations que je vais vous proposer. Je commence par ce passage. La mère de Dieu apparaît à Benoît avec ses anges et leur permet de lui parler de plusieurs choses. Mais dans l'impatience où elle était d'entendre sa bonne mère, Benoît leur dit: Taisez-vous, beaux anges, laissez parler la bonne mère. L'ange lui dit: Je ne parle que par son ordre. La bonne mère se mit à rire et lui parla. Pourquoi je vous propose cette citation en préambule à notre atelier? C'est pour donner un peu l'ambiance. Quand on va rencontrer les anges à Notre-Dame-du-Lot, on n'est vraiment pas dans quelque chose de triste. On est dans quelque chose de joyeux, on est dans quelque chose de vivant. J'ose dire, on est presque un peu dans quelque chose de bazar. Voyez? Les anges Marie, vous voyez, il y a quelque chose de foisonnant, mais je pense que c'est l'approche la plus juste pour saisir la présence angélique. On est sur un foisonnement de la création de Dieu, voyez, qui se manifeste à travers les anges. Et c'est dans ce foisonnement, hein, je vous invite à ouvrir votre cœur, à ouvrir votre âme à cette présence angélique. Hein, nous sommes ici rassemblés dans cette salle. Mais il y a aussi nos anges gardiens qui sont là. Hein, et il y a tous les anges qui se sont dit, tiens, on va parler de nous si on allait voir ce qu'il en est. Donc finalement, je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'anges qui sont là autour de nous. J'ai employé le mot chapelle parce qu'évidemment, quand on est en prière, et évidemment, quand on célèbre l'Eucharistie, là, il y a foisonnement aussi d'anges autour de nous. Pour introduire cette première méditation sur les anges, j'aimerais partir d'un constat que je crois faire. Peut-être ne le faites-vous pas en paroisse, ça dépend de la sensibilité, je dirais, des prêtres qui servent vos paroisses ou des communautés religieuses qui servent vos paroisses. Il me semble que les anges sont très présents aujourd'hui, mais pas dans les prédications. Ils sont très présents dans la publicité pour vendre du fromage, pour vendre de la viande, pour vendre du liquide vaisselle. Ils sont très présents dans nos fêtes de Noël. On décore volontiers les vitrines de magasins avec des petits anges. On trouve chez Casa ou Jiffy des bougies en forme d'ange. On en voit vraiment partout. Vraiment partout, sauf dans les prédications. Ah, quoique depuis à peu près une décennie, on commence de nouveau à offrir aux anges un droit de cité qui avait disparu dans les années précédentes. Parce que beaucoup, me semble-t-il, ont considéré que les anges, oh, ça faisait partie de l'imaginaire collectif. C'est gentil, les anges. Mais quand on arrive à une maturation de la foi, on laisse tomber tous ces petits personnages ailés. Voilà, ça apparaît comme étant pas vraiment très sérieux. Et c'est vrai que les anges ont stimulé l'imaginaire artistique. Hein. On peut penser à toutes les représentations de peinture. Je suis sûr que vous en avez en tête quand je vous parle de Raphaël, de Michel-Ange et de tant d'autres qui se sont amusés à représenter des anges joufflus, aux cheveux bouclés, avec des instruments à la main. Voilà, on a beaucoup employé cette thématique artistique que sont les anges. Avec raison pour essayer de nous faire percevoir leur existence, avec un inconvénient, c'est qu'à partir du moment où il y a eu représentation artistique, il y a eu matérialisation de ceux qui ne sont que des purs esprits. Donc forcément, la représentation artistique, elle est à côté de la réalité. Les anges sont des purs esprits, allez-y, vous avez 2 minutes pour dessiner un pur esprit. Ah. Forcément, vous n'allez rien dessiner en soi. C'est un pur esprit. Alors, sous forme de convention, on pourrait dire, avec quelques fonds bibliques sur lesquels nous allons revenir, On en est venu à représenter les anges comme étant soit des grands personnages magnifiques, soit des petits enfants tout charmants, avec des ailes bien sûr, avec des auréoles. Mais le danger, c'est que finalement, on en vienne à concevoir les anges comme étant mi-homme, mi-oiseau. Enfin, vous voyez, quelque chose qui peut devenir très dérangeant dans ces représentations angéliques. Alors, dans cet atelier, je vais vous proposer qu'on revienne sur les fondements bibliques et spirituels des anges. Mais comme nous sommes au sanctuaire Notre-Dame du Lot, je ne peux pas m'empêcher de commencer par vous parler de l'expérience de Benoît Trancurel ici. Expérience spirituelle formidable, centrée sur sa rencontre avec le Christ, les cinq apparitions du crucifié dans ce qui est maintenant la chapelle du précieux sang. Ça, c'est vraiment le cœur de l'expérience spirituelle de Benoît. Elle est guidée pour cela par Marie, qui se révèle être une accompagnatrice, accompagnatrice spirituelle de Benoît, avec 500 manifestations de Marie au cours des 54 années. Vous faites le calcul, ça va, vous y arrivez, ça fait à peu près tous les deux mois, une accompagnatrice spirituelle qui vient régulièrement faire le point avec Benoît. Et puis, il y a la présence des anges. Combien de fois ils se sont manifestés à Benoît? Là, c'est difficile de calculer. Parce que très souvent, les manuscrits du Lot nous disent « Cette année, les anges se sont manifestés de nombreuses fois à Benoît. » Voilà, pour calculer, allez-y. Donc si on calcule formellement, on trouve à peu près 600 fois, et puis il y a toutes les autres où on ne le sait pas trop. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y aura jamais une première apparition des anges à Benoît. Autant pour la Vierge Marie, début mai 1664, elle apparaît pour la première fois au Vallon des Fours. C'est très daté dans les rencontres mariales, de début mai jusqu'à fin août dans le premier lieu, à 6 km d'ici, ensuite le 29 septembre à Pindreau, et ensuite le 30 septembre ici dans la chapelle de Bon Rencontre. C'est très daté pour Marie, mais pour les anges, jamais on va dire « Benoît rencontre pour la première fois un ange, elle en est surpris et tout ça ». Comme s'il faisait partie de sa vie spirituelle, peut-être même, j'ose dire, avant les manifestations mariales. Je prendrai l'exemple de Padre Pio. Je ne sais pas si vous savez que Padre Pio avait, comme enfant, une relation tellement spontanée avec son ange gardien qu'il s'étonna un jour que les autres n'aient pas de relations semblables. Lui, il parlait à son ange gardien, voilà, quotidiennement, quand il était petit enfant. Et après, il a découvert que ce n'était pas le cas de tout le monde. Il en était surpris. Voyez. Et je pense qu'il y a un peu quelque chose de cet ordre chez Benoît. Il y a une relation avec les anges qui est surnaturellement naturelle. Voyez. Ça fait partie de son ambiance spirituelle. Donc, il n'y a pas un début de rencontre avec les anges. Ensuite, ce qui est intéressant chez Benoît, c'est de voir qu'au fur et à mesure de cette rencontre avec les anges, elle va affiner un peu la manière de les accueillir. Si on lit dans le catéchisme de l'Église catholique, qu'est-ce que sont les anges? Les anges sont de purs esprits que Dieu envoie pour le service, pour notre service sur cette terre, de purs esprits. En fait, Benoît va avoir une rencontre avec les anges où elle va entrer progressivement dans cette réalité-là de ces créatures spirituelles. Nous sommes en 1667, c'est la troisième année des apparitions. La bergère s'étonne que son ange gardien arrive à soulever un tabernacle. Et elle lui dit « Bel ange, vous êtes si petit et vous portez un si grand fardeau. » L'ange se mit à rire de sa simplicité. Ouais. En fait, il s'amuse de quoi, l'ange? Il s'amuse du fait que Benoît le regarde trop comme un être humain. Ouais. C'est pas sa taille qui importe. En un sens, il a pas de taille, c'est un pur esprit. Ouais. Mais Benoît doit entrer justement dans le fait qu'elle ne doit pas être dans un rapport de se dire « puisqu'il est petit, il n'est pas très fort, il ne peut pas porter un tabernacle ». Non, elle va devoir quitter cette logique très humaine de voir les anges. Et ça, elle le comprend peu de temps après. Trois années plus tard, 1670, il y a son ange gardien qui vient la voir et qui lui dit « non, Benoît, là, vous êtes vraiment trop impatiente, ça ne va pas ». Réponse de Benoît, « bel ange ». Si vous aviez un corps comme nous, nous verrions ce que vous pourriez faire. Voyez ? Si vous aviez un corps comme nous. Autrement dit, elle a bien compris que l'ange n'a pas un corps comme nous. Et c'est vrai que peut-être que si on n'avait pas de corps, ce serait plus facile de patienter. Ça reste discutable. Quoi qu'il en soit, les lourdeurs du corps font que des fois, c'est bien compliqué de pouvoir patienter les lourdeurs, les fatigues du corps. Vous voyez, Benoît a perçu que finalement, elle est en train de rencontrer des êtres spirituels qui n'ont pas de corps comme nous. Et en même temps, comment elle va rentrer en dialogue avec eux? Eh bien, à travers ses sens. Et ce qui est intéressant dans l'expérience du lot, c'est que Benoît n'a pas seulement des messages angéliques, elle a les anges qui les rejoignent à travers tous ses sens. Je vous cite ce qu'elle dit une fois, nous sommes en 1673. C'est pour vous donner un point de repère, hein, parce que le lot, c'est sur 54 années, 1664-1718. Donc c'est important de voir aussi par rapport à la pédagogie céleste auprès de Benoît, est-ce que c'est les premières années, est-ce qu'on est au milieu du parcours, est-ce qu'on est au terme du parcours? Et les messages n'ont pas la même couleur en fonction du moment où c'est de ce cheminement spirituel de Benoît. Là, 1673, 9e année, on peut dire qu'on est encore dans les débuts par rapport à 54. Hein. Donc, Benoît est encore en train de découvrir des choses. Et voilà ce qu'on lit. La bergère, on lui demande comment elle fait pour distinguer les bons anges des mauvais anges. Enfin, drôle de question. Et voilà ce qu'elle répond. Les bons anges sentent bon. Ils donnent de la joie et de la consolation. Les bons anges sentent bon. Donc elle est rejointe dans son odorat par les anges. Autre exemple, parfois c'est par l'ouïe qu'elle est rejointe. Elle entend les anges avec un chant très mélodieux, d'un air infiniment plus agréable que les oiseaux de la terre et plus divertissant, qui lui donne une joie inconcevable. Voilà. Elle entend les anges chanter. Puis d'autres fois, elle voit les anges. L'odorat, lui, l'a vu. C'est intéressant de voir que les purs esprits, pour les rencontrer, il ne s'agit pas de notre côté de nier notre réalité corporelle. Au contraire, il s'agit d'ouvrir nos sens, hein, d'ouvrir nos sens à cette présence de nos amis les anges. Voyez? Autrement dit, si vous voulez entrer en relation avec les anges, et on verra que ces relations sont pas comme Benoît de l'ordre du sensible, la majeure partie du temps pour nous, mais il s'agit quand même d'habiter pleinement notre être. Et c'est en habitant pleinement notre être humain que nous pouvons entrer en relation avec les anges. C'est pas en essayant d'imiter les anges. Vous connaissez la parole, hein? Qui fait l'ange fait la bête. Il s'agit pour nous d'être pleinement être humain pour pouvoir entrer en relation avec les anges. Attention aux confusions. Elles sont peut-être évidentes, mais dans le vocabulaire courant, on a tendance à les dire, je suis pas un ange. Et quand quelqu'un fait quelque chose de mal, ah, je suis pas un ange. On vous demande pas d'être des anges. Enfin, on ne nous demande pas d'être des anges, on nous demande d'être des saints. Et le saint, il est incarné dans sa réalité. Hein. Attention, hein, même dans notre vocabulaire, ah bah tiens, un tel est décédé, même un enfant, il est devenu un ange. Non, il n'est pas devenu un ange, il est devenu un saint. Okay? Et on ne change pas de nature. Nous ne sommes pas des purs esprits, nous sommes des êtres charnels et spirituels, appelés au ciel à déployer pleinement notre réalité charnelle et spirituelle dans une âme sauvée et un corps glorieux. On n'est pas appelés à devenir des anges. Voyez? Quand ils entrent en relation avec Benoît, les anges lui parlent. Dites-moi, ils lui parlent quelle langue? La langue angélique? C'est quoi la langue angélique? C'est le latin, c'est l'hébreu, c'est le grec. Il lui parle quoi? C'est-à-dire le patois local. Les anges parlent à Benoît le patois local. Voyez? Je vous dis ça pourquoi? Parce que non seulement ils vont parler avec des mots, un langage que Benoît va comprendre, mais ils vont aussi la rejoindre à travers ses sens avec un langage qu'elle peut comprendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand les anges vont se manifester physiquement à Benoît, c'est un langage. Puisqu'un ange est un pur esprit. Donc en soi, il ne peut pas se matérialiser, mais il peut employer un langage que Benoît va pouvoir comprendre pour se dire, je suis bien en présence d'un ange. Je vous donne un exemple dans les manuscrits du lot. Son ange lui apparaît sous la forme d'un petit enfant, avec des ailes comme on les dépeint, brillant comme le soleil, sans éblouir. Il y a une expression qui est intéressante là-dedans, je la reprends. Avec des ailes comme on les dépeint. Comme on les dépeint, c'est-à-dire que Benoît, quand elle était allée à la messe dans son église paroissiale, elle a vu des tableaux avec des anges. Elle a vu l'autel en plâtre avec des anges représentés. Autrement dit, son langage symbolique, son langage imaginaire sur les anges, c'est des petits enfants avec des ailes. Donc un ange qui se manifeste à elle pour pouvoir parler ce langage symbolique que Benoît connaît, comment il va se manifester comme un petit enfant avec des ailes. Est-ce que ça veut dire que les anges sont des petits enfants avec des ailes? Non. Encore une fois, ce sont des purs esprits. Mais ils emploient un langage pour pouvoir rejoindre Benoît. Vous voyez, cette distinction, elle est importante, hein, parce qu'elle nous permet justement de ne pas rentrer dans une chosification des anges qui a conduit, je vous le disais tout à l'heure, à une forme d'invalidation. Croire à des petits bonshommes avec des ailes et croire que le diable, c'est un petit bonhomme fourchu avec une, comment, avec des cornes. Il y a un moment, on se dit, ça va bien pour les bandes dessinées de Tintin. Vous savez, quand Milou, il doit prendre une décision, il y a son petit ange qui lui dit, fais le bien et son petit démon qui lui dit, fais le mal. Mais on se dit, mais quand on avance un peu dans la maturité, on se rend compte que tout ça, c'est pas sérieux. C'est pas que c'est pas sérieux, c'est que c'est un langage. Et tout langage a besoin d'être décrypté. Et tout langage a besoin de se développer avec le temps. Ça va? Les manifestations angéliques sont des langages et non pas des incarnations. Je pense que si on retient ça, on peut vraiment entrer dans le mystère angélique. Un ange ne s'incarne pas parce que c'est un pur esprit. Le seul pur esprit qui s'est incarné, c'est le Fils de Dieu. Voyez. Et donc, je préfère parler d'ailleurs de manifestations angéliques que d'apparitions angéliques. On peut parler d'apparition de la Vierge Marie, parce que Marie, c'est une femme, hein, pleinement un être humain, donc qui s'est manifestée sous forme d'apparition, mais les anges n'apparaissent pas au sens où ce n'est pas leur corporéité d'être qui se manifeste, c'est un langage. D'accord? Les manifestations des anges sont des langages et non pas des incarnations. Ça va pour ça? Pardon d'insister, hein, mais c'est vraiment la première marche essentielle. À partir de là, on peut aller vers une deuxième marche. Finalement, l'apparence des anges importe peu. Ce qui compte, c'est quoi? C'est la relation avec eux. Et c'est ça qui va être très touchant chez Benoît, de voir comment va s'établir sa relation avec les anges. Je vous cite un passage qui est particulièrement intéressant. Nous sommes dans l'année 1689. Ah, on est presque au milieu des apparitions. Il y a donc une maturation de l'expérience spirituelle de Benoît. Et on lit ceci. Un jour, elle entend une voix qui lui dit plusieurs fois « Bon courage, ma fille !» On lui demande si c'était un ange. « Non, dit-elle, l'ange ne me dit que fille. » Cette voix disant « Ma fille » lui fait connaître que c'est la mère de Dieu. Très intéressant. Pourquoi Marie dit « ma fille » ? Parce que Marie, c'est notre mère. Il y a un rapport de filiation pour nous dans le Christ entre la Vierge Marie et nous. Avec les anges qui sont d'autres natures que nous, il n'y a pas de relation de filiation. Donc un ange ne peut pas dire à Benoît, ma fille, il peut que lui dire, fille. Il reconnaît sa réalité de femme humaine. Voyez? On n'est pas dans de la théologie avec le lot, mais on est quand même dans une expérience spirituelle qui nous aide à être bien au clair sur les choses. Voyez? Et donc Benoît va être avec les anges dans un rapport non pas de filiation, d'enfant à parent, mais dans un rapport de quoi alors? Si ce n'est pas filiation, c'est un rapport d'amitié. Et là, on touche une clé essentielle. Les anges sont des amis. Et Benoît va développer avec les anges une relation amicale. Et donc, nous pouvons nous appuyer sur les relations amicales telles que nous les vivons dans nos relations humaines pour saisir quelque chose de ce que nous sommes appelés à vivre également avec les anges. Je vous cite un exemple que j'aime beaucoup. Peut-être que vous l'avez eu au cours de la veillée, parce que c'est un exemple tellement charmant. L'ange lui apparaissant un matin, alors qu'elle s'habillait, Benoît le prit d'attendre qu'elle soit habillée, ce qu'il fit. Voyez. Benoît n'est pas là à dire « Oh là là, c'est un ange qui m'apparaît. Oh, je me fige et j'arrête de réfléchir. » Non. Avec son ange, elle est comme vous pouvez l'être avec un ami. Vous êtes juste sorti de la douche, pas encore essoré, et votre téléphone sonne. Vous dites, bah, écoute, je te rappelle dans 5 minutes. Vous dites ça à un ami. Voyez. C'est comme ça que Benoît vit la relation avec les anges, une relation d'amitié. Et pourquoi c'est précieux pour nous? D'abord parce que ça nous montre que Dieu nous aime au point de nous donner des amis, et nous avons des amis humains avec lesquels on vit des choses merveilleuses, et c'est très important de soigner l'amitié, hein. Livre des Proverbes, celui qui a trouvé un ami a trouvé un vrai trésor. Mais le Seigneur, par amour pour nous, nous a aussi donné des amis spirituels, que sont les anges. Les amis humains et les amis spirituels étant vraiment offerts par amour, parce que le Seigneur veut notre bien, et en même temps offert pour que nous puissions déployer notre amitié avec Dieu. Et c'est là où les anges sont particulièrement précieux. Ils nous aident à nous rendre compte que Dieu est ami. Vous connaissez cette parole de Jésus? Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Et quand on réfléchit bien, me semble-t-il, dans notre vie spirituelle, c'est pas si évident de faire authentiquement de Dieu un ami. Et les anges vont nous aider, par amitié avec eux, à approfondir, à affiner, à élargir, à nous réjouir du don que Dieu nous fait de pouvoir être ses amis. Ça, c'est aussi quelque chose qui me semble particulièrement précieux. Et l'amitié, ça se vit comment? Bon, l'amitié, c'est sympa avec un ami de partager un bon moment, et ça peut être précieux de le faire. Vous voyez un beau paysage, vous êtes tout seul, vous dites « c'est dommage, j'ai personne à qui dire, t'as vu comme c'est beau ». Bah si, j'ai mon ange gardien. Et je peux dire « t'as vu comme c'est beau ». Notre Créateur, il fait vraiment des merveilles, voyez. Et voilà, j'ai entretenu tout simplement un petit moment avec mon ange gardien. Mais bon, un ami, dans les beaux moments, c'est précieux, mais c'est encore plus précieux dans les épreuves. Et c'est beau de voir dans l'histoire du lot combien les anges sont là auprès de Benoît dans les épreuves. Je cite un passage qui date de 1670. Les saints anges lui ont toujours servi de consolation dans toutes les afflictions qu'elle a eues. Benoît, côté affliction, elle a été servie. Ils ont servi de consolation. On reviendra sur les missions des anges. Les anges consolateurs. Parce qu'amis, voyez. Puisque ce sont des amis, ce sont des consolateurs. Puisque ce sont des amis consolateurs, ils nous ouvrent à l'amitié de Dieu consolateur. Et c'est quoi l'amitié de Dieu consolateur? C'est l'Esprit Saint, le consolateur. On reviendra sur le lien entre les anges et l'Esprit Saint. Plus d'une fois, la question m'a été posée, mais quand je reçois une inspiration, elle vient des anges ou elle vient de l'Esprit Saint? On essaiera de voir comment, non pas décortiquer la chose, mais comment y répondre de manière authentiquement chrétienne. Pour l'instant, je retiens que les anges sont là auprès de Benoît dans ses épreuves. Ils sont là aussi. Un bon ami, c'est quelqu'un qui vous dit des conseils, qui vous donne des conseils quand vous êtes dans une situation délicate. Je cite un passage des manuscrits du Lot. Benoît entend le bon ange qui lui dit de ne pas tant se troubler dans des affaires, que ça lui tournerait la cervelle. Vous voyez ? Son ange, il est là, lui dit « arrête ». Arrêtez, parce qu'il vous voit tout le temps. Arrêtez de vous prendre la tête. Vous voyez ? Peut-être que ça peut faire du bien d'entendre notre ange qui nous dit ça. En tant qu'ami, il nous dit « arrête de te prendre la tête, là. Franchement, tu te fais une montagne pour quelque chose qui ne le mérite pas. » Ou un autre passage. L'ange dit à Benoît de ne pas se troubler dans les affaires du monde, qu'elle fasse ce qu'elle pourrait et que Dieu ferait le reste. Voilà un bon conseil d'un ange ami. Faites ce que vous pouvez. Donnez le meilleur de vous-même. Mais vous ne prenez pas pour Dieu. Voyez ? Voilà encore un bon conseil. Je précise que cette notion d'amitié est présente chez les anges auprès de Benoît, mais elle est présente de manière communautaire. Là, j'ai évoqué plusieurs passages où il est question du bon ange, d'un ange, c'est reconnu comme étant l'ange gardien de Benoît, donc avec lequel elle a une relation un petit peu spécifique. Mais jamais les anges ne sont individualisés. Quand il est question d'anges, c'est toujours en tant qu'ils font partie de la grande assemblée des anges. Et dans les manuscrits du Lot, on aura plusieurs fois, il y a des anges qui font. Tout à l'heure, je vous citais, Marie est portée par quatre anges. Pourquoi quatre? Est-ce qu'un seul, il n'aurait pas assez de force? Mais non, ce n'est pas le problème. C'est qu'il s'agit de montrer leur solidarité, voyez, autour de Marie. Et il va être question plusieurs fois d'une infinité d'anges, pour bien nous dire qu'on est sur une assemblée. Et ça aussi, c'est précieux pour nous, parce qu'à travers l'amitié avec les anges, en tant qu'ils sont assemblés, finalement, il y a quelque chose d'un avant-goût du ciel. Parce qu'au ciel, je vous préviens, on ne sera pas chacun dans sa cabane. Jésus a beau dire qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, on sera dans la pleine communion les uns avec les autres. Et donc la communion avec les anges comme communauté angélique nous aide déjà à percevoir et peut-être aussi à désirer ce que sera la communion du ciel. Voilà pour l'approche par rapport au lot. Ça va, vous tenez le coup? Alors maintenant, on aurait dû commencer par cela, mais je trouvais intéressant de partir de l'expérience de Benoît. Il s'agit maintenant d'aller aux fondements bibliques. Les fondements bibliques sans lesquels ça n'aurait aucun sens pour nous de confesser l'existence des anges. S'il n'y avait aucune référence biblique sur les anges, on dirait, ben non, c'est un truc qu'on a inventé. Toute notre foi repose sur la révélation. La révélation étant pas la Bible toute seule. Hein. La révélation, c'est quoi? C'est la Bible et son interprétation authentique par le magistère et par la tradition. Dans la vive conviction que nous avons que l'Esprit-Saint n'a pas arrêté de souffler une fois que le corpus biblique a été composé, lequel corpus biblique composé est lui-même une œuvre du magistère, mais que c'est l'Esprit-Saint qui travaille et qui travaillera l'Église jusqu'au dernier temps, et donc qui est présent, bien sûr, de manière forte et éminente chez les auteurs bibliques pour les inspirer, mais aussi dans l'Église pour qu'elle puisse interpréter et développer ce mystère qui se trouve tout entier dans la révélation biblique. C'est vraiment important pour nous de ne pas dissocier les deux. Alors, quand on va voir la révélation biblique, qu'est-ce qu'on trouve? D'abord, dans l'Ancien Testament, j'entendais Raphaël, hein, oui, évidemment, on pense spontanément à Raphaël, à Michel. Alors, il faut bien voir que on pourrait faire une lecture, et à certains égards, elle est juste. On pourrait faire une lecture des anges dans l'Ancien Testament à partir du grand accent spirituel de l'Ancien Testament, du grand accent spirituel hébreu, qui est la grandeur de Dieu. Sans doute savez-vous que le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, dans la Torah, il n'est pas prononçable. D'ailleurs, il est écrit, si on traduit avec des lettres françaises, occidentales, YHWH. Ça, c'est le nom imprononçable. Sauf avec un très gros rhume, on a du mal à prononcer YHWH. Oui. Alors, on a vocalisé en Yahvé ou en Yéhovah. Mais le pape Benoît XVI, de manière très juste, nous a demandé dans nos Bibles de ne pas vocaliser, de façon à respecter ce qui est exprimé dans le tétragramme sacré. C'est Dieu est tellement grand qu'on ne peut même pas prononcer son nom. Parce que déjà prononcer son nom, ce serait d'une certaine manière le réduire. Attention, on est dans l'Ancien Testament, hein, parce qu'après le nom de Dieu va devenir prononçable, puisque lui-même va choisir de s'incarner, de devenir Jésus-Christ. Donc le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Voyez. Mais dans l'Ancien Testament, cet accent sur la transcendance de Dieu est très important. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a plusieurs passages dans la Bible où on va pouvoir se demander... Est-ce que véritablement les anges existent ou est-ce que c'est un langage qui est employé pour dire que c'est Dieu sans qu'on dise Dieu, tellement Dieu est grand? Ça va, vous me suivez? Je prends un exemple, j'ose dire l'exemple le plus significatif. Nous sommes dans le livre de la Genèse au chapitre 32. Si vous êtes venu avec une Bible, vous pourrez l'ouvrir. Ça peut être intéressant de voir justement comment en français ça a été traduit. On est bien d'accord que nos Bibles n'ont pas été écrites en français, d'accord? Elles ont été écrites en hébreu, fin de l'Ancien Testament en grec, Nouveau Testament en grec, sur une base d'araméen, et vous savez bien que toute traduction est un choix. Comme disent les Italiens, traduttore traditore, celui qui traduit, trahit. Donc forcément, des fois, on est sur des mots qui vont correspondre, non pas du mot à mot, mais à nos cultures, pour essayer d'exprimer quelque chose qui est dit dans une autre culture. Ah, donc il faut quand même un petit peu de distance. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir plusieurs Bibles sous les yeux quand on étudie ou quand on médite un texte. Comme ça, on va dire, bah tiens, ma Bible de Jérusalem a traduit de cette manière-là, mais à côté, il y a la Bible de la liturgie qui n'a pas traduit pareil. Et puis, il y a la Bible hostie qui traduit encore autrement. Voyez ? Et c'est significatif dans ce chapitre 32, du livre de la Genèse, à partir du verset 25. C'est le fameux combat de Jacob, ça vous dit quelque chose? Dieu, Jacob qui prend la route pour aller massacrer son frère, et puis sur le chemin, en pleine nuit, il vit un combat. On ne sait pas trop si c'est un combat ou une danse, si c'est un combat ou une embrassade. En tout cas, c'est un combat qui terminera par une bénédiction. Ouais, donc on est sur quelque chose d'assez mystérieux comme expérience spirituelle vécue par Jacob. Et voilà ce qui est dit au verset 25. Jacob resta seul. Donc il est... Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Quelqu'un. un quelqu'un, si vous voulez, si on veut traduire formellement, un quelqu'un. Avec ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ? Ensuite, l'homme, tiens, il est qualifié d'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre Jacob, le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme, encore une fois, lui dit « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit « Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. » L'homme demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il reprit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte, parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Tiens, étonnant, hein ? Jacob vient de vivre ce combat, cette lutte. Il va prendre un nouveau nom, Dieu lutte. Dieu lutte, pas l'ange lutte. Pourquoi ? Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Vous voyez comme on est dans quelque chose d'assez flou. Hein ? Jacob demanda, « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénuel, c'est-à-dire « face de Dieu ». Car disait-il, « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. » Vous voyez comme c'est intéressant ? On a vraiment plusieurs niveaux de lecture, et comme si le texte biblique nous disait « Cherchez pas à choisir. Prenez cette expérience spirituelle comme Jacob l'a vécue, avec tout, on pourrait dire, la complexité que peut avoir aussi pour nous une expérience spirituelle. Quand est-ce que vous arrivez à déterminer que, je sais pas, que c'est l'Esprit-Saint qui vous a donné une consolation, ou c'est l'intercession du Saint curé d'Ars, ou comment vous allez le percevoir ? Ben, on prend comme c'est donné, quoi. Et on ne cherche pas à décortiquer. En tout cas, cet exemple me semble significatif pour nous montrer qu'on pourrait très bien, et de nombreux exégètes le font, dire, vous voyez, les anges n'ont pas de réalité, c'est simplement une manière de parler de Dieu. Mais comme Dieu est tellement grand, avec cette approche spirituelle hébraïque, on ne va pas utiliser le mot Dieu, on va parler d'un quelqu'un ou d'un ange. C'est assez crédible comme approche. On trouvera bien sûr dans l'Ancien Testament d'autres passages qui évoquent les anges. On peut penser par exemple à l'ange qui accompagne Gédéon. On peut penser, certains évoquaient tout à l'heure Raphaël, hein, l'ange qui guérit. Mais alors, on peut dire, mais est-ce qu'on est dans des récits historiques ? Est-ce qu'on est dans des récits qui ont plus une portée symbolique ? Ce n'est pas toujours évident de savoir dans l'Ancien Testament. Est-ce que le livre de Job, par exemple, c'est un livre historique ? Ah, l'histoire de Job, c'est une histoire qui a son genre littéraire en soi. On ne va pas dire que c'est un mythe, mais c'est un genre littéraire particulier et unique. Voyez ? Et donc, en tout cas, on ne peut pas affirmer de manière absolue que quand il est question d'anges dans l'Ancien Testament, ce sont des créatures spirituelles et ce n'est pas Dieu. On ne peut pas l'affirmer de manière absolue. Et si j'insiste, c'est parce que ça va être très intéressant de voir le bouleversement avec l'incarnation du Verbe. Autrement dit, avec Noël, hein, avec le mystère de Jésus-Christ. Parce que là, tout d'un coup, les anges, porte ouverte. Ça commence à l'Annonciation, à Joseph et à Marie. On pourrait dire, mais non, on est encore dans cette manière de penser de l'Ancien Testament où c'est Dieu qui vient auprès de Marie et auprès de Joseph, mais comme il est grand, on va dire que c'est un archange et non pas Dieu. Ouais, pourquoi pas ? On peut penser à Noël, où là les anges chantent la gloire de Dieu et vont annoncer aux bergers la naissance du Sauveur. On peut penser aux tentations au désert, où les anges viennent servir Jésus, au jardin de Gethsémani, où ils l'aident et le consolent, au jour de Pâques, où ils sont présents dans la tombe, à l'ascension, où Jésus est élevé jusqu'aux cieux, et des anges qui disent aux apôtres « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ?» On pense au début de l'Église, avec les anges qui se manifestent à Corneille, acte chapitre 14, à Pierre, acte chapitre 12, à Paul, acte chapitre 27, à Jean, Apocalypse 1:1. Impressionnant comme les anges, tout d'un coup, ils se manifestent comme si, pas comme si, pour exprimer cette réalité que le Fils de Dieu ayant pris chair, il y a un lien qui devient charnel en la personne de Jésus entre le monde spirituel et le monde humain. Voyez, on a quelque chose de ce lien qui est manifeste en la personne de Jésus. Vous trouverez des exégètes pour vous dire « Non, non, mais d'accord, il y a ce lien entre ciel et terre. » Il n'empêche que, on peut tout à fait penser que ça reste une manière de parler et que les anges ne sont pas une réalité de créature, mais juste une manière de dire Dieu qui s'approche. Sauf que, dans les évangiles, à côté des histoires, des récits, pardon, pour pas parler d'histoire, des récits qui nous rapportent la vie du Christ, il y a aussi quoi ? Les enseignements du Christ. Et là, quand Jésus nous parle des anges, waouh ! Non seulement il en parle très clairement, mais il en parle aussi sur des questions décisives. Quatre exemples. Dans toute démarche de conversion, Luc chapitre 15, vous connaissez les trois paraboles de la miséricorde. Et qu'est-ce que va dire Jésus ? Il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Vous imaginez Jésus dire « il y a de la joie chez les anges de Dieu, mais qu'en fait les anges n'existent pas ». Pourquoi Jésus aurait dit ça ? Comment celui qui est la vérité en personne pourrait nous dire « il y a de la joie chez les anges de Dieu » si les anges de Dieu n'existaient pas ? Matthieu chapitre 10, verset 18. « Gardez-vous, dit Jésus, de mépriser un seul de ces petits. » Il montre les enfants. Hein. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » Leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Mais les anges n'existent pas. Alors, il faut accueillir la parole de Jésus pour ce qu'elle nous dit. Hein. Jean chapitre 1, verset 51. La rencontre de Jésus avec Nathanaël. Barthélemy, qu'on va fêter samedi. Jésus lui dit, je t'ai vu sous le figuier. Ah, Barthélemy, il est impressionné. Ah, tu m'as vu sous le figuier. Et qu'est-ce que lui dit Jésus ? Tu verras plus grand encore. Amen, je vous le dis. Jean chapitre 1, verset 51. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Ouais. Pourquoi Jésus dirait ça si les anges n'existaient pas ? Lors du jugement dernier, Évangile de Saint Matthieu, chapitre 25, verset 31. « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Et il dira à ceux qui sont à droite, à ceux qui sont à gauche, etc. » Comment Jésus pourrait dire « Le Fils de Dieu viendra dans la gloire avec tous les anges et tous les anges avec lui » si c'est pour nous dire « Mais non, mais en fait, les anges n'existent pas. » Voyez ? Je crois clairement, il n'est pas possible d'interpréter les paroles de Jésus dans un langage symbolique. Jésus nous révèle de manière absolument sûre l'existence de créatures purement spirituelles qu'on appelle les anges. Catéchisme de l'Église catholique au numéro 328. L'existence des êtres spirituels non corporels que l'Écriture sainte nomme habituellement anges est une vérité de foi. Le témoignage de l'Écriture est aussi net que l'unanimité de la tradition. Si je suis chrétien catholique, je ne peux pas dire « Moi, je crois en Jésus, mais pas aux anges. » Eh non, c'est une vérité de foi. Alors bien sûr, la mort et la résurrection du Christ est beaucoup plus centrale que l'existence des anges. Mais c'est aussi une vérité de foi. Et une vérité de foi qui converge vers ce mystère central qu'est la mort et la résurrection du Christ. Puisque les anges, non seulement nous montrent le terme de notre vie sur terre, ou plutôt le déploiement de notre vie que sera le ciel. Il nous montre cette vie communautaire qui est déjà notre réalité présente et qui s'épanouira au ciel. Et il nous montre à quel point Dieu nous aime en nous envoyant des amis et des aides. Voyez ? Donc, nous devons confesser l'existence des anges tout en reconnaissant qu'ils ne sont pas au cœur de notre foi. Je note aussi que si vraiment on est attentif à notre liturgie, on se rend compte que les anges sont très présents. Peut-être n'avez-vous jamais vraiment prêté attention au cours d'une messe au nombre de fois où le mot « ange » revient. Si ce n'était pas le cas, bah, prêtez attention à la prochaine messe. Vous demandez à votre ange gardien de vous rendre attentif à ça, qu'à chaque fois il fasse une petite sonnerie. « Ding, ding, eh, t'as entendu ?» Voyez ? De fait, au cours de la messe, il est souvent question des anges. Hein ? D'abord parce que les anges eux-mêmes exercent une liturgie. Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Voilà ce que dit Saint Jean. Donc Apocalypse 19, 10. Je vais peut-être un peu vite hein, pour les citations, excusez-moi. Je me jetai à ses pieds. Donc Saint Jean qui dit par rapport à un ange, hein, je me jetai à ses pieds pour me prosterner devant lui. Il me dit, non, ne fais pas cela, je suis un serviteur comme toi, comme tes frères qui portent le témoignage de Jésus, prosterne-toi devant Dieu. Ouais. Donc, les anges, on ne se prosterne pas devant eux, ils sont serviteurs et ils nous montrent le chemin de Dieu, ils nous montrent l'adoration véritable. Je vous proposerai tout à l'heure qu'au cours de ce festival, vous alliez à un temps d'adoration pour adorer avec les anges. Je vous proposerai même quelques textes pour vous y aider. Je pense que c'est essentiel d'entendre que les anges sont d'abord des adorateurs avant d'être des transmetteurs de messages. Hein. Spontanément, on pense à Gabriel, donc on est beaucoup dans la logique de message. D'ailleurs, angelos, ça veut dire l'envoyé, celui qui est envoyé pour porter un message. Donc il y a quelque chose dans le mot ange qui, en un sens, n'est pas ajusté. C'est pourquoi le catéchisme n'a pas dit ange, mais a dit des êtres spirituels non corporels. Voyez. Et leur mission, à certains, c'est d'être ange, d'être envoyé. Voyez. Mais la mission première et essentielle et éternel des anges, c'est d'être adorateur. Et donc, dans la liturgie, quand est-ce qu'on les voit apparaître, les anges? Tiens, c'est un atelier, il faut qu'il y ait un peu d'interactivité. Quand est-ce qu'on voit les anges dans la liturgie? Avant la consécration. Oh, vous êtes déjà trop loin. On va commencer un peu plus avant. Oui? Je confesse à Dieu les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères. Donc, on appelle les anges en disant, bon, écoutez, tout seul, on va jamais y arriver à se convertir. Donc, j'appelle l'aide de la Vierge Marie, des anges, des saints et de mes frères et sœurs. Voyez, là pour le coup, on fait une expérience de la réalité, de la totalité de la création. Et peut-être que ce serait bien de ne pas aller trop vite à prononcer cette parole, non seulement pour prendre conscience de ce qu'on y dit, de ce qu'on y dit, mais également pour prendre conscience de l'engagement qu'on prend. Parce que je demande aux autres de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Je ne sais pas si à ce moment-là vous vous dites, ah ouais, il faut que je prie pour les autres. C'est pourtant l'engagement qu'on prend mutuellement. Ouais. Il faudrait qu'il y ait une petite pause à ce moment-là pour qu'on se dise, ah ouais, je vais prier pour mes voisins là parce que je suis sûr qu'ils ont besoin d'aide pour pouvoir se convertir. Voyez, non pas parce qu'ils sont pénibles, hein, mais parce qu'ils sont humains, d'accord. Et effectivement, il est question des anges que nous appelons pour nous aider. Très bien, c'est la première référence. La deuxième, on va dire dans une messe festive ou solennelle, le gloire à Dieu, bien entendu. Hein. C'est textuellement, c'est pourquoi il ne faut pas changer les paroles du gloire à Dieu pour prendre n'importe quel chant dans lequel il y a le mot gloire, c'est que nous reprenons les paroles des anges dans la nuit de Noël. Ils proclamaient gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Donc en fait, au gloire à Dieu, nous unissons notre voix à celle des anges. Et c'est intéressant parce que ça nous permet de nous rendre compte qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans notre liturgie? C'est pas nous qui faisons notre petit truc là sur terre. C'est un moment privilégié où nous nous associons à la liturgie du ciel. Ah, quand on prend conscience de ça, on vit la messe autrement. Nous nous associons à la liturgie du ciel. Les anges en permanence chantent la gloire de Dieu. Nous, au quotidien, on est pris dans nos affaires, nos préoccupations. Et puis à un moment quand même, dans notre journée, ou au moins dans notre semaine, le dimanche, où on va ouvrir notre petite vie à son déploiement éternel, et on va être associé à la liturgie du ciel. Je pense que si on accueille la messe à partir de ce mystère, on la vit d'une manière beaucoup plus large. Un autre moment où il y a les anges? Le Sanctus, exactement. Hein. Avec les anges et tous les saints, nous proclamons, hein, c'est en général comme ça que se conclut la prière, la préface de la prière eucharistique. Ce qui est intéressant parce que nous chantons quoi à ce moment-là? Un passage de la Bible. Isaïe chapitre 6, verset 6, où il est dit ceci, « Les anges se criaient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. » Ils se crient l'un à l'autre. Hey, « Hé, ange qui est au bout de la salle, Saint, 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 le Seigneur. » Ah, ok. Puis, vous voyez, comme si les anges avaient besoin de se le proclamer mutuellement, cette sainteté de Dieu. Vous voyez, pour la magnifier, bien entendu. Pas pour qu'enfin on en prenne conscience. Les anges en ont pleinement conscience. Mais bien qu'ils en aient pleinement conscience, ils ont besoin, d'une certaine manière, de se le crier les uns aux autres. C'est pour dire combien nous aussi, nous avons besoin de nous crier les uns aux autres la sainteté de Dieu. Et il y a un moment liturgiquement où on le manifeste, c'est dans ce chant du Sanctus. Hein. Ensuite, on a la quatrième prière eucharistique qui introduit le Sanctus d'une manière toute particulière. Je vous le cite. « Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi, et contemplant la splendeur de ta face, ils n'interrompent jamais leur louange. unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Elle est magnifique, cette parole. Voyez? Elle nous dit bien, les gens, les anges sont en permanence dans la proclamation de la gloire. Nous, on s'y met un peu. Pour faire quoi? Pas simplement pour nous y mettre, nous, mais pour que ce soit toute la création, c'est-à-dire la création visible et la création invisible, qui soient unies dans la même proclamation de la sainteté de Dieu. Waouh! Et effectivement, c'est ce qui se passe au moment du Sanctus. Je vous encourage à y penser. À ce moment-là, il y a quelque chose de l'ensemble de la création, visible et invisible, qui est dans la même parole prononcée au Créateur et Sauveur. Dans la prière eucharistique numéro 1, il y a aussi un très beau passage où il est dit, c'est le prêtre qui parle, hein, juste après la consécration, en disant des offrandes consacrées, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Ouais. C'est pour dire en fait les hosties consacrées, le corps et le sang de Jésus-Christ réellement là, sont sur l'autel céleste. Voyez, voyez ce lien entre la liturgie de la terre et la liturgie du ciel. Je pense qu'on va vivre la messe autrement après tout ça, vous ne croyez pas? Je vous propose quelques pistes pour une spiritualité angélique authentiquement chrétienne. Hein? Donc fort de tout ce qu'on a vu, mais finalement comment on peut développer ou entretenir, voire découvrir une spiritualité angélique qui soit authentiquement chrétienne. Première proposition, priez avec votre ange gardien. Je pense que certains d'entre nous n'ont jamais prié avec leur ange. Dans l'histoire du lot, on a cette parole intéressante. Benoît dit son chapelet avec son bon ange. Il le commençait et elle répondait. Vous voyez ? Pas mal hein, comme manière de faire. Hein ? Alors si vous le faites vous-même, il faut être un peu concentré. Hein, mais c'est jouable. Et c'est même intéressant. Parce que l'ange, il dit quoi ? Ça commence par quoi le « Je vous salue Marie » ? Ça commence par la parole de l'archange Gabriel. Donc c'est normal. Hein ? C'est la partition des anges. Et puis ensuite, nous, hop, on prend la partition humaine. Le « Je vous salue Marie » se prolonge par les paroles d'Élisabeth, un être humain. Et donc, c'est nous qui disons cette parole. Voyez. Et en fait, on peut dire « Je vous salue Marie » ou l'ensemble d'un chapelet comme une prise de conscience de ce lien, justement, entre les créatures invisibles et les créatures visibles. Et on peut prier le chapelet avec son ange gardien. C'est une expérience vécue par Benoît ici. C'est une expérience que vous allez aussi trouver à l'île Bouchard. Apparition du 9 septembre 1947, je cite, « La dame et l'ange se sont associés à leur prière, à la prière des enfants, jusqu'à ces paroles, Sainte Marie, Mère de Dieu exclusivement, les laissant dire seule la deuxième partie de la vie.